le magazine des Nations Unies.
La Banque mondiale réaffirme son soutien aux priorités stratégiques de la République démocratique du Congo, ce qui explique la visite des vice-présidents de cette institution de Bretton Woods cette semaine à Kinshasa. Il s'agit de M. Hafez Ghanem, en charge de l'Afrique orientale et australe, et Sergio Pimenta de la Société financière internationale pour l'Afrique. Vous suivrez les détails dans cette édition. Nous irons aussi à Fizi, dans le sud Kivu, où la MONUSCO a dépêché une mission conjointe d'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la localité de Bigobogo, composée notamment des membres du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, de la section des affaires civiles et du programme DEDER. La délégation avait aussi pour mission d'identifier des cas de violation des droits de l'homme dans cette contrée. Enfin, 4,7 millions de dollars américains, un don du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF pour soutenir les programmes socio-économiques en faveur des enfants de l'ex-grand Kasaï oriental. Le chef des bureaux de l'UNICEF, Mbujimayi, l'a annoncé cette semaine à l'occasion de la revue annuelle de cette agence de l'ONU. Voilà tout pour les titres. Place maintenant au développement de votre magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale se porte bien. Pour preuve, la dernière visite à Kinshasa des deux hauts fonctionnaires de cette institution financière internationale. Il s'agit du vice-président en charge de l'Afrique orientale et australe, Hafez Ghanem, et du vice-président régional de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta. Du 11 au 12 novembre 2021, ils ont effectué une visite conjointe dans la capitale congolaise. Objectif principal, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Ce soutien de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la République démocratique du Congo concerne notamment les projets en matière de développement économique et social. C'est jeudi 11 novembre que les deux représentants régionaux de cette institution financière sont arrivés à Kinshasa. Ils ont été reçus, comme le prévoyait le programme, par le président de la République avant d'assister dans la soirée au lancement du projet Kinelenda par le Premier ministre. De la rencontre avec le chef de l'État congolais, l'on retiendra également que la Banque mondiale s'est engagée à mettre en place d'ici décembre un programme de 250 millions de dollars. C'est là en appui au programme du gouvernement pour la stabilisation de l'Est de la RDC à travers des investissements dans les deux Kivu et en Ituri. La totalité des nouveaux investissements de la Banque mondiale pour la RDC d'ici juin 2022 sera de plus de 1,3 milliard de dollars américains, ont fait encore savoir les hôtes de Félix Tshisekedi. Par ailleurs, les hauts fonctionnaires de la Banque mondiale ont reconnu les efforts fournis par le gouvernement congolais et souligné que le pays était en train de reprendre du souffle dans une économie mondiale impactée négativement par le Covid-19. $4,7 millions américains, une dotation financière de l'UNICEF au profit des provinces du Kasaï oriental, Lomami et Sankuru, dans le cadre du programme de coopération avec la RDC. Le chef de bureau de l'UNICEF, Mbujimayi, l'a annoncé mardi dernier lors de l'arrivée annuelle de ce programme en présence de l'autorité provinciale. Selon le docteur Séraphin Petello, au moins 70% de ces fonds sont affectés à la santé de l'enfant et à son éducation. Les propos du chef du bureau de l'UNICEF Mbujimayi recueillis par Esther Ndalafina.
L'UNICEF a pu mobiliser plus de fonds que l'année dernière, sans compter les intrants mis à la disposition des partenaires pour les activités. $4,7 millions américains ont été dotés en cash en 2021 dans nos trois provinces de responsabilité, contre $3,5 millions en 2020. Se référant aux engagements pris au début du programme 2020-2024 pour les résultats attendus à la fin du quinquennat, jetant un regard sur ce qui a été fait en 2020, sur les prévisions de 2021-2022, prenant en compte les contextes difficiles actuels et les privations des enfants qui sont encore importantes, le comité de gestion de l'UNICEF avait pris certaines décisions depuis le début de l'année, dont le focus sur l'enfant pour les interventions du programme à mettre en œuvre. Le comité de gestion a recommandé que 70 à 90% des fonds dépensés puissent aller directement à l'enfant, et le représentant de l'UNICEF en RDC a écrit un mémo pour recadrer les barèmes de l'appui de l'UNICEF.
Changement de registre, comment se présente la situation humanitaire et la cartographie des groupes armés dans le territoire de Fizi au sud Kivu, précisément à Bibogodo? Une mission d'évaluation conjointe de la MONUSCO s'y est rendue en début de semaine. La délégation était composée des sections du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Affaires sociales, DEDER et PIO. Elle avait aussi pour mission d'identifier des cas de violation des droits de l'homme et de faciliter la cohésion sociale. Fiston Ngoma.
Après 30 minutes de vol par l'hélicoptère de la MONUSCO au départ d'Uvira, nous atterrissons sur une piste à côté d'une base opérationnelle de la MONUSCO. Ici à Bibokoboko Centre, il y a un soleil de plomb. Plusieurs villages collinaires entourent Bibokoboko Centre où les retournés retrouvent progressivement leur élan de vie actuel il y a de cela une semaine. Dans un briefing sécuritaire reçu sur place, ça n'étire plus depuis l'arrivée des casques bleus pakistanais de la MONUSCO. Le 27 octobre dernier, les soldats de la paix organisent des patrouilles à pied jusqu'à 16 km. Ils ont visité plusieurs villages encore vidés de leurs habitants autour de Bibokoboko Centre. Dimanche 7 octobre, des miliciens Maïmaï ont lancé des alertes d'attaque sur Tugenge et Mugono ainsi que sur Kakuku et Lulimba, des villages qu'on peut observer à quelques kilomètres de vol d'oiseaux depuis la colline de la MONUSCO. Aucune position des combattants Turwane ou Gumino n'est signalée à la suite de ces menaces sécuritaires. Les chefs locaux et les acteurs humanitaires approchent la MONUSCO pour échanger les informations et se réconforter. Depuis la colline de la MONUSCO, à Bibokoboko Centre, Fistongo Mamayaba, la Radio Kapi.
Dès l'Est, allons maintenant dans le Nord du pays avec le HCR pour boucler cette page d'actualité de la semaine. Le week-end de la semaine dernière, le HCR a terminé la première phase des opérations de rapatriement des réfugiés centrafricains à partir des Zongo, villes congolaises voisines de Bangui, capitale de la République centrafricaine. Ces réfugiés faisaient partie de la première vague de plus de 1700 qui vivaient au camp Molé à 35 km de Zongo. C'est l'année prochaine que le HCR et ses partenaires reprendront les opérations de rapatriement volontaire d'autres candidats, de précision avec Paul Richard Malengela.
Le dernier convoi à destination de Bangui a quitté Zongo le vendredi dernier. Ils étaient au total 242 passagers, dont 82 ménages, qui ont pris place à bord de véhicules et baleinières affrétés par le HCR et ses partenaires. Chacun a aussi amené quelques articles ménagers essentiels dont il a bénéficié avant le départ du camp. Cependant, il y a plus de 1700 réfugiés du camp de Molé qui avaient manifesté l'intention de retourner en Centrafrique cette année. Ceux qui sont restés sont programmés pour l'année prochaine, indique la sous-délégation du HCR Guadolite qui organise ces opérations. Par ailleurs, après Molé, dans la périphérie de Zongo au sud d'Ubangui, la même opération va se poursuivre le 12 novembre prochain au camp de Boyabo, dans le territoire de Libengue, toujours dans le sud d'Ubangui. Puis le 15 novembre, ce sera autour du camp Ike, situé à 45 km de Guadolite dans le nord d'Ubangui. Notons enfin que cette vague de rapatriement volontaire vers Bangui a été lancée le 22 octobre dernier à Molé. Jusqu'au week-end dernier, 1253 réfugiés centrafricains ont été rapatriés dans leur pays. Bandaka, pour Chamalengue, la Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Revenons encore à l'atelier de l'Organisation internationale pour les migrations organisé à Kinshasa du 1er au 2 novembre 2021. Georges Dominguez, chargé des programmes Retour volontaire et réintégration, et Joseph Dick en étaient les formateurs. Dans un entretien croisé, ils se sont prêtés aux questions du Maguen autour notamment des concepts Retour volontaire et réintégration ainsi que du rôle de l'OIM dans ces processus pour les migrants. Suivez. Dominguez Georges, bonjour.
Bonjour.
Dick Joseph, bonjour.
Bonjour monsieur.
Un atelier de l'UEM à Kinshasa pour renforcer les capacités des acteurs du gouvernement et de la société civile en matière de retour volontaire et réintégration des migrants de retour. Quels sont les objectifs de cet atelier, monsieur Dominguez? On commence par vous.
Merci beaucoup. Donc, effectivement, nous sommes en train de mener un atelier pour les acteurs du gouvernement et de la société civile en RDC qui peuvent ou potentiellement pourraient assister des Congolais de retour à travers le programme de retour volontaire et à la réintégration mise en place par l'OIM avec ses partenaires. L'objectif, c'est de partager la compréhension de l'OIM en matière de retour volontaire et de réintégration durable, partager aussi l'approche holistique qui englobe une prise en charge et une réintégration à niveau individuel, mais aussi à travers les communautaires dans lesquelles les personnes reviennent et les structures de l'État à niveau économique, social et psychosocial.
Cet atelier s'est tenu dans le cadre de la deuxième phase du projet FORAS. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste concrètement ce projet ?
Le projet FORAS, dont son titre long, c'est FORAS, renforcement des opportunités de réintégration. C'est un projet mis en place à l'OIM au Maroc, grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, qui vise à préparer les personnes inscrites au programme de retour volontaire avant leur départ, à travers des séances de conseils et d'informations sur les opportunités et les défis de réintégration dans 8 pays de la région de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que à fournir une préparation personnelle et technique à travers différentes formations de courte durée visant à mieux outiller les bénéficiaires pour faire face au programme de réintégration et aux défis de la réintégration qu'ils pourraient rencontrer au retour.
Alors, Monsieur Dick Joseph, je viens à vous. Il y a le concept retour volontaire, réintégration des migrants. Retour volontaire, c'est quoi ?
Pour une meilleure compréhension du retour volontaire, il faut voir ça d'une manière holistique. Il y a le retour volontaire, ça ne se limite pas là, normalement, il y a aussi la réintégration des migrants. Le retour volontaire, c'est un dispositif d'assistance de l'OIM qui est fourni à chaque migrant qui en a besoin quelque part du monde. Ça peut être un migrant ou une migrante bloqué en transit, en situation irrégulière ou régulière, mais qui n'a plus de moyens ou qui est en situation de détresse, de vulnérabilité et qui souhaite rentrer pour joindre leur famille et pour continuer sa vie et aussi ses aspirations. Et par ce dispositif, l'OIM va fournir toute l'assistance autour du cycle. Donc ça commence par la réception, par un premier entretien, l'assistance médicale, préparation de voyage, aussi le soutien logistique, aussi l'assistance à l'arrivée. Et tout cela est toujours basé sur les besoins individuels, les vulnérabilités qu'il peut y avoir et toute autre spécificité qu'on devrait assister. Et pour la suite, on continue avec une aide à la réintégration qui doit être durable. Donc c'est aussi l'objectif de cet atelier, donc pour promouvoir notre nouvelle approche intégrée qui se transpose sur trois dimensions intégrales. Donc c'est la dimension économique, sociale et psychosociale, et aussi sur trois niveaux. C'est le niveau individuel, communautaire et structurel. Et on est très content de travailler sur ça. Les migrants de retour, ils reçoivent la réintégration pour qu'ils puissent mener leur vie et répondre aussi à leurs aspirations. Et aussi, c'est une manière pour éviter des possibles rémigrations ou des autres situations de détresse ou vulnérabilité à l'avenir.
En d'autres termes, la réintégration des migrants, c'est que vous donnez aux migrants les moyens de pouvoir reprendre normalement sa vie dans son pays d'origine.
Exactement. Et ça, c'est aussi l'idée principale dans notre assistance, que la migration doit être un choix et pas une nécessité. Et cela commence, pour revenir aussi au retour volontaire, premièrement, c'est un choix par chaque migrant ou migrante qui est fait selon une base d'informations adéquate. Et pareil pour la réintégration, ça sera aussi le choix des retournés qui pourront développer un projet à leur guise, bien sûr, ensemble, conjointement avec l'OIM et avec un conseil et suivi prêt, pour répondre à leurs besoins.
Oui, alors, dans le cadre de cette intégration, je vois qu'il y a plusieurs autres projets, notamment le projet PROTECT, protection et assistance des migrants vulnérables pour la protection. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise par rapport à ce projet ?
Comme le projet FORAS, nous avons deux autres projets phares qui contribuent à ce dispositif de retour volontaire et à la réintégration. D'un côté, le projet PROTECT, qui est financé par le Royaume du Pays-Bas, et aussi l'initiative conjointe entre l'Union européenne et l'OIM, qui est financée par l'Union européenne et ses États membres. Les deux projets ont des objectifs assez similaires, mettre à disposition une aide de retour volontaire dans les pays d'accueil et pour la suite aussi une réintégration durable dans les pays d'origine à travers l'Afrique du Nord. Donc les trois projets sont opérationnels en Algérie, au Maroc et aussi en Égypte et aussi la Tunisie.
Dominguez, je reviens à vous pour une dernière question. Comment se passe alors concrètement l'aide de l'OIM au retour volontaire et à la réintégration des migrants en cas de la RDC ?
Lors des dernières années, la mission de l'OIM ici en RDC a reçu en moyenne 200 migrants de retour, même si cette année 2021, les chiffres sont au-delà de 400 personnes. C'est des migrants que normalement retournent de pays de l'Europe, de l'Afrique du Sud, ainsi que des pays du nord de l'Afrique, dont l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc. Ils sont accueillis ici, ou à l'aéroport, ou dans les bureaux de l'OIM, par les travailleurs et les conseillers à la réintégration. Ils reçoivent des séances de conseils pour identifier leurs vulnérabilités, voir leurs besoins et savoir un peu plus quels seraient les projets de réintégration qu'ils aimeraient mettre en place. Et ils sont accompagnés dans ces processus, que ce soit à niveau économique, que ce soit à niveau social, que ce soit à niveau psychosocial, comme nous venons d'expliquer.
Monsieur Dominguez, Georges, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Monsieur Dick Joseph, merci.
Merci.
Non, nouvelle en plus bref, elle s'appelle Sangya Mala, de nationalité népalaise. Elle est actuellement staff de la MONUSCO comme chef de l'unité de la police de la santé et de l'environnement, une unité qu'elle a aidé à établir dans la capitale congolaise. C'est donc elle, Sangya Mala, qui a été nommée femme policière de l'année par le département des opérations de paix des Nations Unies. Ses contributions pendant la pandémie de Covid-19 en cours et les épidémies passées de la maladie à virus Ebola ont eu un impact significatif en RDC. MONUSCO encore, la semaine dernière, les casques bleus indiens sont intervenus pour calmer une émeute et mettre fin à des affrontements entre civils et forces de l'ordre à Kirumba, dans les territoires des Lubero, alors que la foule en colère avait commencé à s'attaquer à des biens publics. Les soldats de la paix ont discuté avec les différentes parties, ce qui a permis de désamorcer la crise et de calmer la situation. Restons encore dans le même territoire de Lubero, le comité international de la Croix-Rouge, CICR, au secours des déplacés de Luofu en soins médicaux. Selon la société civile locale, cette institution humanitaire internationale a renforcé le stock du centre de Kavina en médicaments et facilité la prise en charge gratuite de tous les malades déplacés internes. Le président de cette société civile, Hilaire Kanakwa, a salué le geste de la CICR et inviter d'autres partenaires de santé à lui emboîter le pas.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le MAGUN vous propose à nouveau l'entretien que lui a accordé Mathilde Vautier, chef du sous-bureau Kinshasa du PAM, Programme Alimentaire Mondial, dans le cadre du projet conjoint d'assistance aux ménages les plus démunis de la commune urbano-rurale de Lancelet pour lutter contre les retombées de Covid-19. Suivez cet entretien. Mathilde Vautier, bonjour.
Bonjour.
Le PAM s'est engagé dans une action humanitaire de distribution des moyens de subsistance à plusieurs ménages dits vulnérables dans la périphérie de Kinshasa. En quoi consiste concrètement cette action?
Alors oui, le PAM a effectivement reçu un financement des gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis et a pu commencer un projet d'assistance monétaire dans 6 aires de santé parmi les plus pauvres de la commune de la Nselé. Donc le projet, il a été mis en œuvre conjointement avec donc le PAM, l'UNICEF et la FAO, ainsi que leurs partenaires comme l'ONG World Vision, le ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire, l'Institut national des statistiques, le ministère de l'Agriculture et aussi le ministère du Développement rural.
Alors c'est depuis quand le projet est en cours et avec quel objectif?
Voilà, alors le projet, il est en lien avec la pandémie de Covid-19. Il a débuté à la fin de l'année 2020 et il avait pour objectif d'atténuer les impacts socio-économiques des mesures qui avaient été prises pour limiter la propagation du virus. On pense ici au confinement, au couvre-feu et aussi à la fermeture de certains marchés.
Alors comment se passe concrètement cette distribution? Est-ce que vous sélectionnez les ménages bénéficiaires et de quelle manière?
Comment ça se passe? Déjà, je vous rappelle qu'il s'agit ici d'une distribution de cash. Donc partout où il y avait du réseau téléphonique, la distribution s'est faite à travers les cartes SIM et les comptes M-Pesa de Vodacom. Et là où il n'y avait pas de réseau téléphonique, les bénéficiaires ont reçu des espèces à travers la banque TMB. Maintenant, quant à la sélection, donc le projet de Nselé a été divisé en deux phases. La première, c'était la phase humanitaire qui s'est étalée sur les 3 premiers mois et la phase de protection sociale durant les 6 mois suivants. Donc la sélection des familles, en fait, pour les deux phases a été différente. Pour la première phase, c'est l'approche universelle qui a été utilisée, c'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord ciblé les quartiers les plus vulnérables dans les 6 aires de santé et que toutes les familles résidentes dans ces quartiers étaient éligibles à l'assistance monétaire. Les équipes du PAM, de l'UNICEF, World Vision, le MINAS qu'on a cité, l'INS, ont fait du porte-à-porte pour enregistrer les familles et par la suite, ils ont organisé un enregistrement biométrique pour tous les membres de la famille à partir de 5 ans. Et pour la deuxième phase qu'on vient de mentionner, le ciblage des familles, comme on a dit, avait été différent. Donc les familles les plus vulnérables ont été ciblées par les communautés elles-mêmes en fonction de critères qui étaient relatifs à la nature du logement, l'alimentation, les revenus, l'accès à l'éducation et à la santé.
Quel est alors le bilan à mi-parcours de ce projet ?
Alors le bilan est très positif. Un an après avoir commencé les premiers préparatifs du projet, il faut savoir quand même que la période de préparation a pris plus de temps que prévu parce que les équipes ont dû faire face à plusieurs défis. Je mentionnerai ici l'accès qui était difficile dans certaines localités comme Kindouti ou bien Ingili, les routes qui sont en très mauvais état et qui nécessitaient même parfois de devoir marcher. Et également un deuxième défi, c'était l'absence de réseau téléphonique. Donc en dépit de ces difficultés, il y a quand même 20 000 familles qui ont reçu une assistance monétaire pendant plusieurs mois. Et en plus de cette assistance monétaire, donc la FAO a distribué des semences et des outils agricoles pour les maraîchers. C'est un projet qui a été financé par la Belgique et l'UNICEF a travaillé pour améliorer les services de santé au niveau des communautés. Et il est très important aussi de noter la participation active et l'implication du gouvernement dans toutes les étapes du projet, ce qui fait une raison de plus de son succès.
Vous dites qu'il s'agit d'un bilan très positif. Est-ce que vous avez mesuré l'impact de cette action? En d'autres termes, est-ce que cette action est visible, mesurable?
Alors oui, on peut mesurer l'impact de notre action de plusieurs manières. La première, c'est de façon qualitative, notamment en discutant avec les familles qui ont bénéficié de l'aide et en organisant des groupes de discussion sur des sujets bien spécifiques. La seconde manière, c'est de façon quantitative. Et donc là, ce qu'on fait, on fait des études auprès d'un échantillon représentatif des bénéficiaires et on aborde des sujets divers tels que la sécurité alimentaire, les stratégies de survie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. J'ai moi-même rencontré plusieurs familles qui ont bien étudié la meilleure façon de dépenser l'assistance monétaire qu'ils ont reçue. Donc par exemple, après avoir alloué une partie des fonds à l'achat de la nourriture pour leur foyer, le paiement des frais de scolarité, le paiement de certains frais de santé quand c'était nécessaire, ils ont ensuite décidé d'investir une partie de l'argent dans un nouveau petit business ou bien de fortifier un business qu'ils avaient déjà auparavant et qui avait potentiellement été impacté négativement par la Covid-19. Par exemple, j'ai pu discuter avec une famille en particulier qui a décidé de construire un four à pain. Donc le monsieur, il avait déjà travaillé dans une boulangerie auparavant et après avoir étudié la concurrence dans son quartier, lui et sa femme, ils se sont dit que ça pouvait être une activité prometteuse. J'ai aussi rencontré d'autres dames qui ont pu renforcer leurs activités de maraîchage, par exemple, ou bien leur salon de coiffure, ou leur étal de farine de maïs, farine de manioc, et qui ont aussi investi dans l'achat de cochons. Donc en fait, des histoires comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines à NCL. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que certains ménages avaient seulement besoin d'un coup de pouce pour obtenir une certaine durabilité de leurs moyens d'existence.
C'est des projets que vous avez vus de vos propres yeux ou seulement ils vous en ont parlé?
Oui, bien sûr, je les ai vus. Quand on va sur le terrain, quand on se balade dans les quartiers qu'on a sélectionnés, on peut discuter et voir de nos propres yeux en fait tout l'impact positif de cette assistance.
Donc vous faites quand même un suivi auprès des bénéficiaires pour voir s'ils utilisent à bon escient votre assistance?
Exactement, donc on fait plusieurs types de suivi avec les bénéficiaires tout au long de la mise en œuvre du projet. Et nous avons aussi des mécanismes en place pour que les bénéficiaires aussi puissent avoir un canal de communication avec les différentes agences, le PAM, l'UNICEF, la FAO et aussi leurs partenaires. Donc en plus des études qu'on vient de mentionner qui mesurent l'impact de nos actions, on organise aussi régulièrement ce qu'on appelle des vérifications sur les sites de distribution, où les bénéficiaires sont approchés de façon aléatoire pour comprendre plusieurs choses, s'ils ont bien reçu l'assistance, s'ils ont fait face à des problèmes particuliers, s'ils ont pu faire remonter leurs problèmes et si leurs problèmes ont pu être résolus. Et donc pour tout ce qui est des mécanismes en place pour que les ménages puissent adresser leurs plaintes ou apporter tout simplement des commentaires sur le projet, on peut citer notamment la ligne verte du PAM, le 49 11 11, qui est gratuite depuis tous les opérateurs, mais aussi les comités de gestion des plaintes qui ont été établis dans chaque quartier ciblé par le projet. Et enfin, les tables des plaintes qui sont en général installées sur les sites lorsque nous avons des activités sur le terrain.
Mathis Voltier, merci.
Merci à vous.
74 ex-combattants, jeunes et femmes vulnérables de Massissi ont terminé leur formation professionnelle de 3 mois dans le cadre du projet Sévère de la MONUSCO. Les uns ont appris la coiffure esthétique, les autres la plomberie et la menuiserie. C'était au centre d'apprentissage de Don Bosco Ngangi à Goma, au Nord Kivu. Ces ex-combattants étaient venus de la communauté Bachali. Plus de détails dans ce reportage de Mathieu Ilunga Chamboui.
Il s'agit bien de la clôture officielle d'un projet sévère de la MONUSCO visant la réinsertion socio-économique de 74 personnes, parmi lesquelles des jeunes à risque, des femmes vulnérables et des ex-combattants. Tous venus des localités de Kichanga, Mweso, Kashuga et Kalembe en province du Nord Kivu. Ce projet financé à hauteur de plus de 88 000 dollars américains par la MONUSCO est mis en œuvre par le projet des œuvres de Don Bosco dans le programme de réduction de la violence communautaire, un pont entre la paix vers le développement. Explication de Jean-Claude de la section de Deur MONUSCO Goma.
Au nom du chef de l'équipe de DDR au niveau de Goma, moi j'ai dit merci pour les bénéficiaires d'abord qui ont été patients et aussi aux partenaires qui ont exécuté ces projets. En tout cas, les objectifs c'était juste donner les capacités techniques aux bénéficiaires qui ont été choisis. Ça a été fait, on est satisfait. Il y avait aussi la formation sur la gestion des agères et l'entrepreneuriat pour donner aux bénéficiaires les capacités de bien gérer les kits et l'assistance.
Tour à tour, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Le cas de cette dame ex-combattante.
Cette formation aquafire esthétique, grâce au projet CIVIA, nous avons bien maîtrisé le tressage des cheveux, la pédicure et la manucure.
Le commissaire divisionnaire François Kabeyamakosa, maire de ville de Goma qui a représenté l'autorité provinciale, a exhorté les lauréats d'être utiles à la communauté pour aider les autres à sortir de la brosse.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Une question a été posée le 3 novembre dernier au porte-parole civil et militaire de la MONUSCO. Suivez la question et les réponses.
C'est Sharif Pitoum, journaliste à la radio Canal Révélation. J'aimerais savoir pourquoi il y a toujours des suspicions à chaque fois qu'il y a un mouvement, des véhicules, des hélicoptères, des casques bleus de la MONUSCO. La population n'arrive pas à comprendre. On dit toujours, peut-être ils partent renforcer des groupes armés. Je ne sais pas si vous avez une lecture à faire, Katassé, pour nous éclaircir.
Bon, le déplacement des casques bleus par leurs moyens, soit terrestres ou aériens, c'est pour d'abord dissuader les groupes armés qui sont aux alentours de la zone. Deuxièmement, c'est pour répondre à une alerte ou bien à une attaque imminente ou bien une incursion, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas pour, comme vous dites, le soutien des groupes armés. Je sais pas pourquoi ce sentiment il est là, mais toujours nos forces, elles sont là pour combattre ces groupes armés et les dissuader et prévenir leurs attaques et leurs incursions.
J'ajouterais que lorsque les populations sont victimes de violences depuis de longues années, comme c'est le cas dans l'Ituri et dans le Nord Kivu, il y a un problème de confiance générale avec parfois les autorités centrales du Congo, parfois avec nous évidemment étant des militaires étrangers, et un travail de rétablissement de la confiance sur lequel nous continuons de travailler justement avec les partenaires. Nous essayons de rencontrer le plus souvent possible les communautés, justement pour qu'il y ait une grande clarté. Et j'ajouterais que la confusion est entretenue par des gens, par les fameux tireurs de ficelles dont on parle souvent, qui ont intérêt à ce que cette insécurité se perpétue pour pouvoir continuer à perpétrer leur trafic et à exister dans les zones où ils ont un pouvoir indu.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Quelques dates à retenir pour la semaine qui commence. 18 novembre, journée mondiale des toilettes. 19 novembre, journée de l'industrialisation de l'Afrique. Et 20 novembre, journée mondiale de l'enfance. C'est déjà la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site www.radiocapi.net. Radio Kapi, en émo, je suis Honoré Missenga Kalala. J'étais à la présentation. Merci de votre attention. Restez branchés pour la suite des programmes sur la radio de la paix.